Allez-y. Non, une seconde.
Je vous vois venir.
Alors, 3, 4.
Bon, on ne parle pas la bouche pleine. Alors, ça suffit.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
On faisait la chantilly en battant la crème avec des branches de genêt. C'était de la crème fouettée. Alors ça, les madeleines, j'ai mis de la cannelle, de la vanille et du poivre. Ce qui est ennuyeux, c'est que c'est pas recommandé pour maigrir. Alors, quand ça va presque bouillir, tu le mets dans le pot à chocolat et puis tu reverses du lait pour qu'on fasse la quantité de chocolat qui sera bonne.
Nous sommes à l'Isle-Adam avec une figure mythique de la littérature gastronomique. Maeglon Toussaint-Sama est l'auteur de plus de 100 livres, dont l'admirable histoire naturelle et morale de la nourriture. Maeglon Toussaint-Sama, j'aimerais que vous nous disiez qui vous êtes.
On dit, je suis une femme, une créature pensante et réfléchissante. Et tout ce que j'ai écrit, c'est le produit de mes réflexions et de mes sensations. Et je pense aussi que mes livres sont aussi le miroir de certaines façons de voir que j'ai.
Et comment vous définiriez cette façon de voir ?
J'absorbe.
Vous ingurgitez ?
J'ingurgite. Je me nourris. Je me nourris de la nourriture, comme mes ancêtres très très lointains se sont nourris par besoin. Et quand je pense à quelque chose, souvent c'est en fonction de ce que ça m'apporte comme bonheur.
Maeglon, ce prénom vient d'où ?
C'est un prénom du Languedoc. C'est une ville qui était en même temps une île au large de Montpellier. La première église chrétienne qui a été faite, ça a été fait là, dans les marécages. Et quand la ville a été détruite, l'église et tout ça, on l'a transportée sur la côte. Et Montpellier est la fille de Maeglon.
Maeglon Toussaint-Sama, vous êtes la fille de l'écrivain Jean Toussaint-Sama.
Oui, qui était un écrivain, qui a beaucoup voyagé, qui a été envoyé à Madagascar pour le musée de l'homme. Et non seulement il a ramené des nouvelles, des romans, et surtout il a ramené ma mère. Ma mère aussi est écrivain. René Valissama, qui était traductrice d'anglais. J'étais nourrie de ce milieu littéraire parce que mon grand-père était directeur d'un grand journal de province qui s'appelait Le Petit Marseillais. Donc, c'était normal que j'écrive. J'ai commencé à écrire, j'étais au lycée en 5e. J'ai écrit pour la semaine de Suzette. J'écrivais des chroniques que je signais de mon nom et je ne pense pas que les petites filles de l'époque savaient que j'étais aussi une petite fille.
Et quel genre de texte écriviez-vous dans la semaine de Suzette ?
Je me rappelle d'un Chantal et la paresse. Ce que j'ai pu écrire sur la paresse, je ne m'en souviens plus.
D'où vient cette passion pour l'histoire de la gastronomie ?
Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais vous, j'ai souffert de la faim terrible. J'ai eu tellement faim que pour moi, la nourriture est devenue quelque chose de précieux, au-delà de ce qu'on en pense d'habitude. J'ai aimé la nourriture plus que le besoin de se nourrir.
Vous avez rêvé de la nourriture, vous avez écrit sur la nourriture avant de la manger ?
Oui, je pense. Ça me nourrissait, si vous voulez, l'esprit, à défaut du physique.
À l'époque, vous n'écriviez pas encore d'histoire de cuisine ou de...
Ah non. Mais j'ai tout de suite apprécié la cuisine. Et comme j'étais mariée, il fallait bien que je nourrisse mon mari et puis après mes enfants. Et Donc j'ai voulu mettre à profit toute la nourriture dont finalement on bénéficiait. Et donc j'ai écrit les recettes de cuisine que j'ai d'abord données à la Veillée des Chaumières. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était un journal pour les bonnes femmes. Et puis je me suis plus arrêtée. Et puis un jour, il y a un éditeur qui devait faire un petit livre de cuisine en cadeau, si vous voulez, de la compagnie d'avion.
Alors c'était un livre, les recettes africaines pour Air Afrique.
Oui.
Et maintenant, choisissez le plat, mettez votre plus beau boubou et invitez beaucoup d'amis. Hospitalité africaine oblige. Ça, c'est votre premier livre. C'est un,
oui, j'ai c'est, pris
c'est un recueil de cartes, en fin de compte.
J'ai mis à profit mon premier voyage en Afrique parce que mon mari travaillait là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai apprécié la cuisine africaine pour ce qu'elle est et sa variété. Puis après, je me suis plus arrêtée.
Et vous avez publié presque 100 livres?
Oui, à peu près.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un livre qui est une Bible, qui a été traduit dans le monde entier, qui s'appelle l'Histoire
naturelle. Sauf en allemand.
Sauf en allemand, pourquoi?
Ah, ça, je ne l'ai jamais su.
Qui s'appelle l'Histoire naturelle et morale de la nourriture,
oui.
Qui était publié à l'origine chez Bordas et qu'on trouve aujourd'hui aux éditions Le Pérégrinateur,
oui.
Et qui est un livre qui a été réédité avec une préface de Guy Savoy et une introduction de Noël Châtelet. Et c'est intéressant parce que vous racontez un peu toutes les mythologies de la gastronomie.
Toutes les mythologies et toutes les croyances. La nourriture est une expression de l'être humain. Il raconte aussi bien ses joies, ses peines. Toutes les fêtes inspirent la gastronomie. C'est le moi profond des gens. Comme j'ai écrit également un livre sur les vêtements, c'est ce qu'on voudrait qu'on pense de vous, tandis que la nourriture, c'est ce qu'on pense de soi. J'ai fait la fougasse, alors elle, c'est de la farine, du sel, de l'eau, de la levure, des lardons, et puis j'ai mis aussi des olives parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de lardons.
On m'a dit que vous aviez toujours peur qu'il n'y ait pas assez.
Mais c'est vrai, c'est la réputation que j'ai.
Et vous aviez envie de manger quoi? Votre moi profond,
qu'est-ce choses,
que c'est?
Des choses parfumées, l'huile goûteuses, d'olive. Qui sont la nature.
Et qui sent quelle nature?
Ça sent l'été quand il fait chaud, que la campagne sauvage avec le thym, toutes les herbes qui sentent bon. La Provence aussi, c'est les légumes frais et tendres qui viennent du pays même, qui ne sont pas des choses importées, et qui donnent à la fois envie de manger, mais aussi envie de continuer la cuisine d'autrefois.
Et c'est quoi la cuisine d'autrefois?
Mon Dieu.
Un gratin d'aubergine?
Oui, c'est une des choses. Comment vous le savez?
Ah ben, je ne sais pas, je le cherche.
C'était, voilà, pour moi, le gratin d'aubergine, c'était un de mes plats préférés. J'ai même inventé d'autres choses avec les aubergines. L'aubergine avec des poivrons, des choses comme ça. Avec de l'ail, avec de l'échalote... des herbes, et je fais une espèce de salade comme ça, avec très, très parfumée.
Vous savez que votre œil frise quand vous évoquez le gratin d'aubergine et...
Ah bon, c'est ça alors.
Le goût de votre enfance, c'est la cuisine
provençale? Ah oui, ça tout à fait.
Et la ratatouille?
Oui aussi,
oui.
Il faut qu'elle soit bien faite.
Maglone, votre amie Sylvie Larangera... qui travaille avec vous sur l'édition de vos livres, dit que vous êtes non seulement un auteur de livres liés à la cuisine, mais que vous êtes un cordon bleu. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous dévoiliez votre façon de préparer l'adobe, par exemple. L'adobe.
Eh bien, il faut d'abord de la viande d'excellente qualité. Si on fait une daube avec de la viande à rôtir, elle ne serait pas bonne. Il faut une viande qui sécrète un sucre, surtout.
Alors, la faites mariner dans...
Alors, dans du bon vin, avec de l'oignon, de l'échalote, de l'ail. Il faut que ça attende au moins 24 heures et que la viande soit revenue dans de l'huile d'olive. Je ne conçois pas la cuisine sans huile d'olive.
Et vous le déglacez au vinaigre ?
Non, je le déglace au vin.
Votre daube, vous la servez avec quoi ?
Les macaronis.
Comment vous les préparez, vos macaronis ?
Ben, à l'eau, oui, simplement.
Oui. Et vous les faites pas en gratin ?
Ah non.
Non, non.
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 On peut aussi faire ça avec, à la façon alors des Alpes de Haute-Provence, avec de la polenta.
Vous vous sentez provençal ?
Ah oui.
Le poivre, quadrille, languedocien.
Ah, j'ai fait fondre les morceaux de chocolat dans du lait bouillant et j'ai épaissi d'un petit peu de maïzena, tout petit peu. Mm-hmm. Alors, tu chauffes le chocolat qui est dans la casserole, tu remues pour pas que ça attache. Il y a très longtemps que je me suis plus cassée de jambes, il y a quelques années. Et quand je suis dans le plâtre, je fais de la cuisine et mon mari s'étonnait toujours, il me disait être dans le plâtre comme ça, debout, avec une jambe dans le plâtre, mais ça me console. Ce sont des petites choses. C'est subtil, la gourmandise. C'est un choix. On a travaillé la recette. Enfin, c'est pas de la goinfrerie.
À partir de quel moment, Maglone Toussaint-Sama, avez-vous décidé que la gastronomie serait votre sujet, votre sujet de prédilection ?
J'ai pas décidé. C'est venu comme ça. J'ai été envahie par... La gastronomie ne m'a rien demandé. Elle m'a prise comme ça. C'est comme si vous tombez amoureux de quelqu'un, ça vous envahit, puis c'est tout.
Vous avez une passion pour la pâtisserie.
Oui.
La pâtisserie a, comme souvent, été inventée par les femmes avant d'être...
Enfin, c'est ce qu'on dit.
Oui. Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez. Oui. Donc vous avez fait un très joli petit livre qui est publié aux éditions de l'Épure et qui s'appelle « Le sexe des gâteaux ». Qu'est-ce que c'est que le sexe des gâteaux ?
Le livre des livres, la Bible, dit que c'est une femme qui fit le premier gâteau. Mais est-ce qu'elle savait ce qu'elle faisait en tant que femme ? Ou bien obéissait-elle à son mari, on ne sait pas.
Vous pouvez nous raconter cette légende biblique ?
Ben, vous savez, c'était des riches pasteurs qui habitaient dans un pays d'Asie mineure. Et ils avaient des troupeaux, donc du lait. Ils mangeaient ce qu'ils achetaient avec le produit de vente de certaines, ou des bêtes, ou de... Donc, ils avaient de la farine.
Un peu de miel.
Des dattes. C'était très pauvre comme nourriture, mais enfin, on faisait ce qu'on pouvait. Et un jour, il y avait le chef de la tribu, qui s'appelait Abraham, qui prenait le frais devant sa tente. Il a vu trois personnes qui attendaient pour le rencontrer. Il est revenu vers sa famille et il a demandé à sa femme de préparer une bonne chose. Sarah, il y avait de la farine. Et ce qui est curieux, c'est que dans la Bible, on donne une quantité incroyable. Je crois que ça fait 60 kilos pour 4 personnes. Il y avait donc cette farine qui a été mélangée avec soit du beurre, soit de la crème, tout ça. Et ce gâteau de Sarah est devenu gâteau de ce plat parce qu'il était sucré et qu'il était sucré avec du miel. A-t-elle mis aussi des dattes ? Ce gâteau existe encore. J'allais manger en Égypte.
Et ce gâteau s'appelle Fitir Agua ? C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et alors le placenta de Caton ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le placenta de Caton ?
Une recette ancienne que j'aime. C'était le nom d'un gâteau. C'est comme si on disait ad placentum. devant être apprécié. Je l'ai souvent servi comme ça à des amis qui ont été épatés de voir que c'était une nourriture...
De l'Antiquité.
L'Antiquité.
Et ça, vous en donnez la recette. Et non seulement vous en donnez la recette, mais vous donnez aussi des proportions.
Mouiller 70 g de semoule de blé dur très fine et laisser gonfler. Pétrissez-la alors en y incorporant 130 g de farine de blé tendre. Faites-en des galettes les plus minces possibles de la taille d'une assiette que vous laissez reposer. Pendant ce temps, mouillez 70 g de farine de blé tendre pour en faire une pâte souple à bien pétrir. Laissez reposer et préparez la garniture en travaillant 500 g de fromage frais de brebis avec 100 g de bon miel pour obtenir une crème lisse. Prenez alors un plat à four, de préférence en terre, que vous huilez et au fond duquel vous placez les menus fragments d'une feuille de laurier que vous aurez passé au-dessus d'une flamme pour en diminuer l'âcreté. Abaissez la moitié de la pâte de couverture pour enfoncer le plat, en laissant la pâte déborder un peu. Posez un disque par-dessus la pâte fine. Recouvrez d'une couche de crème et alternez ainsi. Pâte fine, crème, pâte, crème, jusqu'à épuisement des ingrédients. Posez alors la moitié restante de la pâte de couverture, soudez les bords, enfournez à four doux pour une heure en protégeant d'un couvercle en cas de coup de feu. Au moment de servir, arrosez de miel.
Je vous assure, c'est très très bon. Et du reste, on a mangé des gâteaux vraiment avec les œufs que lorsque les poules sont arrivées. Et les poules ne sont arrivées en Europe que 5 siècles avant notre ère. Avant, il n'y avait pas d'œufs.
Et ça, on les servait dans des banquets très chics.
Oui.
Dans les théâtres de plein air en Grèce. Mmh. On vendait, alors là, cette fois, c'était ces fameuses pâtisseries coquines. Les kiribanes, c'était les saints d'Aphrodite.
Un gâteau en forme de saint. Et puis, c'est une qui imitait le sexe masculin, l'autre le sexe féminin.
Est-ce que vous voulez que je rappelle aux auditeurs de France Culture la recette du trillon de Pollux?
Oui.
Pour qu'ils puissent le faire, puisque...
Parce que moi, je trouve que c'est très bon.
Pétri de farine de froment, de saindoux, de fromage blanc, de cervelle et d'œufs, on le roule dans des feuilles de figuier, comme les Anglais useront d'un torchon pour leur pudding. Puis on fait cuire ce paquet dans du bouillon de volaille ou de chevreau. On fait refroidir, on déshabille les gâteaux, et on le fait frire dans du miel bouillant.
On ne parle pas à la bouche pleine sur France Culture avec et par Alain Kruger.
Au Moyen-Âge, sous le règne de Louis IX, Étienne Boileau, qui est le prévôt de Paris, établit la liste, la nomenclature des professions. Et dans le livre des arts et métiers, il y a talmelier, oublayeur, c'est ces fameux oublis, ces fameux...
Ceux qui faisaient les oublis.
Biscuits.
Les oublis.
Que l'on vendait devant les églises.
Voilà, qui étaient faits avec les restes de pâte ordinaire.
Mais ça, c'était plutôt un métier de boulanger qu'un métier de pâtissier.
Voilà.
Et les boulangers, on les appelait les talmeliers.
Oui, parce qu'ils tamisaient la farine.
Et les talmeliers, ils faisaient aussi les pâtés. Et alors, les femmes n'avaient pas le droit de faire partie de ces professions.
Sauf si elles étaient veuves et épousaient le premier employé du mari.
Maglone, à la Renaissance, il y a une personnalité qui apporte une révolution un peu dans la pâtisserie, c'est Catherine de Médicis.
Oui, pas elle, mais enfin ses serviteurs.
Les banquets remplacèrent les entremets de peintrerie.
Il y a propension à la gourmandise et à l'opulence qui n'était pas connue autant chez les Français, les Espagnols ou les Anglais qu'en Italie où on célébrait beaucoup la joie de vivre d'une manière plus ouverte.
Et là, on va découvrir la frangipane, la crème fouettée, la brioche.
Oui, c'est tout ça, c'est des employés, des serviteurs de Catherine de Médicis et puis de Marie de Médicis, qu'on oublie souvent d'ailleurs.
Ce qui me frappe, c'est quand vous vous présentez, vous dites « je suis une femme ». Et c'est vrai que vous avez fait ce livre sur le sexe des gâteaux, mais c'est vrai que le rôle de la femme dans le monde de l'alimentation a très souvent été mal considéré ou masqué ou caché. Et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur les grandes oubliées peut-être.
Il n'y a pas beaucoup de femmes connue comme auteur gastronomique, à part une femme que j'ai beaucoup aimée, mais qui n'existe plus. C'était ma petite Toulouse-Lautrec, qui était tout à fait extraordinaire. Vous l'avez peut-être... Ma petite Toulouse-Lautrec a inventé les fiches cuisine dans elle. Et donc, elle aurait 100 ans maintenant. Et c'était une bonne femme extraordinaire, un peu bizarre et tout. Ma petite Toulouse-Lautrec était l'épouse d'un amiral qui s'appelait Monsieur Toulouse-Lautrec et qui était le descendant du peintre. Elle avait, je ne sais pas par quel hasard, elle travaillait à elle. Moi aussi, je travaillais à elle, mais je n'avais pas le poste qu'elle avait, hein, au loin de là. Elle a eu à l'inventer de faire les fiches cuisine. On coupait les fiches et c'était tout à fait extraordinaire pour l'époque.
Et qu'est-ce que vous faisiez à elle, Maglone ?
Oh ben moi, je faisais un truc qui s'appelait « Pour étonner votre mari ».
Et alors, qu'est-ce que vous faisiez pour étonner votre mari ?
Ben, je faisais souvent des reportages, des choses comme ça.
Outre cette figure... de l'inventeuse des fiches de elle. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont marqué pour vous cette relation à la gastronomie ?
Non. C'était...
Pourquoi on dit c'est une très bonne cuisinière et c'est un grand chef ?
Parce que c'est la cuisinière, elle n'a pas le rôle d'un chef. Ne dirige pas, si vous voulez.
Mais Madame Darroze ou Madame Pic... n'ont pas spécialement envie qu'on les appelle chefs, d'ailleurs.
Oui, parce qu'elles sont intelligentes. On dénie la spécialité de chefferie dans la cuisine et la gastronomie. Ce n'est pas nécessaire d'être un homme, c'est bon pour tout le monde. Voilà.
Mais le métier de cuisinier, c'est vrai, est relégué quasiment au second rang dans l'appellation du chef.
Peut-être pas, mais en tout cas... On ne trouve pas ça génial d'être un chef homme. On passe ça sous silence. On passe sous silence le fait d'être un chef ou une chefesse. La femme, de toute façon, ce n'est pas dans les cordes de la femme.
Quel est pour vous, Maglone Toussaint-Samar, quelle est pour vous la différence dans une cuisine entre... une femme chef une cuisinière, et un cuisinier, un chef cuisinier. Qu'est-ce qui les caractérise l'un et l'autre ?
La femme chef doit avoir conscience qu'elle occupe un rôle qui est celui d'un rôle masculin.
Je vois au-dessus de votre épaule, sur une étagère, il y a...
Mais j'ai gagné le prix.
La mère Brasier.
J'ai gagné le prix de la mère Brasier, mais c'est pas du tout pareil.
Mais comment vous les classez, vous, ces mères lyonnaises ? Parce qu'elles n'ont jamais voulu... Elles ont, même quand elles ont eu 3 macarons au guide rouge, elles n'ont jamais revendiqué un titre de chef.
Non. Si elles avaient revendiqué, on les aurait taxées de prétentieuses ou de ne pas être à leur place.
Et vous, qui avez écrit une centaine de livres, vous vous définissez comme un écrivain ou...
Oui.
Ou une écrivaine ?
Non, parce que c'est pas français, c'est pas joli.
Quand vous repensez à ce premier livre, là, le Mort et sa fille, ce livre commencé par votre père et terminé par votre main, qu'est-ce que vous dites devant ce chemin parcouru ?
Il y a 60 ans d'abord, hein. Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte ? 70 ans, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. Le monde tourne doucement, peut-être que dans une ou deux générations, les choses seront reclassées autrement, je n'en sais rien.
Vous avez l'impression que c'est toujours aussi difficile d'être une femme dans ce monde ?
Et de toute façon, il est difficile d'être une femme.
La défense des femmes, c'est la légitime défense ?
Bien sûr. Sinon, qu'est-ce que ce serait ? On dirait, mais elle se laisse aller, elle vaut rien. J'essaie de me défendre. Mon seul bien, c'est d'être une femme. Eh ben, qu'on n'y touche pas trop. Voilà.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Dominique Combetissard, la prise de son est de Benjamin Chauvin, le mixage de Stéphane Démon, la mise en onde de Anne Pérez. Et nous remercions Sylvie Larangera qui a eu la gentillesse de lire les recettes de Maglone Toussaint-Sama et qui est son amie et sa collaboratrice. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 et une nuits. Vous pouvez la télécharger, la podcaster et dans quelques instants écouter le journal sur France Culture.